Bien. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de démystifier, démythifier le personnage Newton. Newton, c'est un nom comme ça. Oui, on sait que c'est un homme célèbre, mais c'est un petit peu nébuleux. Et vous verrez que chaque fois qu'on creuse la vie d'un personnage, eh bien, il y a bien sûr les choses connues, relativement connues des spécialistes ou du grand public, et puis des choses inconnues. Donc je vais essayer de vous faire découvrir les deux. Hein. Et puis je vais essayer de développer aussi une autre thèse, c'est qu'il y a une interaction très forte entre l'histoire, le contexte socio-culturel de l'époque et l'œuvre du scientifique. Il est évidemment génial, sinon il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, mais un génie dans un contexte qui n'est pas favorable n'émerge jamais, il reste chez lui et on n'entend jamais parler de lui. Donc je vous expliquerai pourquoi on a entendu parler de lui. Bien, on y va. Ah, voilà l'individu. Il a quand même vécu 84 ans. 84 ans. Si je compte bien, 84 ans au milieu du XVIIe siècle, il était costaud. Donc c'est une longévité tout à fait exceptionnelle. Le premier tableau, il a 46 ans, tout simplement parce que c'est juste le moment où il émerge sur la scène, on va dire, de la célébrité, c'est-à-dire qu'il est connu à Londres. Et le peintre officiel de la cour l'a portraituré, M. Kneller. Kneller, c'était le peintre officiel de Charles II, Jacques II et de Guillaume d'Orange, donc deuxième moitié du XVIIe siècle. Et donc vous voyez le vieillissement. Évidemment, il a la perruque. Alors, ici, ce sont ses cheveux naturels. Il était blanc à 30 ans. Hein. Et ici, donc la perruque, bien sûr. Et la perruque, voilà. Le voilà à 80 ans. Ah, je vais déjà vous faire un cours d'histoire, puisque c'est un petit peu mon dada. Donc, la conférence sera en trois parties. Une biographie de l'homme, deuxièmement l'œuvre scientifique et troisièmement les polémiques dans lesquelles il a été impliqué, si vous voulez, et en ne choisissant que deux ou trois. Dès que vous êtes dans un milieu visible scientifiquement et politiquement, eh bien vous êtes la cible d'attaque. C'est comme maintenant, même déjà au XVIIe siècle, c'était pareil. Il n'y avait pas de télé, mais il y avait déjà des polémiques. Donc, un petit rappel d'histoire, puisqu'il est classique en France qu'on n'apprend jamais l'histoire de l'Angleterre à l'école. Hein. C'est un véritable scandale. Et on ne comprend pas pourquoi les Anglais nous envahissent tout le temps, depuis la guerre de Cent Ans. Et si on apprenait l'histoire d'Angleterre, on comprendrait un petit peu mieux le point de vue des Anglais. Alors, du point de vue des dates, il est contemporain complètement de Louis XIV, pour vous situer la période. Aussi bien naissance, il a vécu un peu plus vieux que Louis XIV, mais c'est pour vous situer la période. Ça nous met bien, il faut se caler par rapport à l'histoire de France, si vous voulez. Les Anglais, qui sont toujours à la pointe de l'innovation, ont fait beaucoup mieux que les Français, puisqu'ils ont coupé la tête de leur roi 150 ans avant Louis XVI, hein, Charles Ier, en 1649, tout simplement parce qu'il y avait un conflit entre le Parlement et le roi, qui voulait être absolu, et le Parlement ne voulait pas. Mais à l'époque, les Anglais sont beaucoup plus opérationnels que les Français. Le Parlement a levé une armée, et l'armée du Parlement a battu l'armée du roi, et on lui a coupé la tête. Et le chef de l'armée du Parlement, c'est un gars qui s'appelait Cromwell, vous avez déjà entendu ce nom, et il a duré 10 ans, après il est mort, dans son lit, il a mis son fils à sa place, il n'a pas tenu un an. Et donc, le fils de Charles Ier a repris le trône, un règne qui a duré 25 ans à peu près, et les deux grands événements parmi tant d'autres, c'est la grande peste de Londres, qui aura une incidence sur le parcours de Newton, j'en parlerai, et le grand incendie de Londres, 1666, où quasiment les deux tiers de la city, comme on dit toujours maintenant, ont péri dans les flammes. dans des conditions tout à fait spectaculaires. Les guerres avec la Hollande, donc toute la deuxième partie du XVIIe siècle, c'est des guerres tous les 2-3 ans avec la Hollande pour des questions de suprématie sur les mers, c'est-à-dire la concurrence commerciale sur la traite négrière et le commerce avec les Antilles. Charles II meurt dans son lit et c'est son frère Jacques II qui lui succède en 1685. Malheureusement, il ne va pas durer très longtemps, celui-là, parce qu'en 1688, il est victime de ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution. Et pourquoi les Anglais l'appellent la Glorieuse? Puisqu'il n'y a pas eu de violence. Et la Glorieuse Révolution, il a été en fait déposé par défaut par le Parlement. Il n'a jamais abdiqué. C'est le Parlement qui a décrété son abdication. Et comment ça s'est fait, cette Glorieuse Révolution? Par une invasion navale de l'Angleterre. On vous dit toujours que l'Angleterre n'a été envahie que par Guillaume le Conquérant, ce qui est un gros mensonge. Guillaume d'Orange, en 1688, est descendu à la Tamise et a descendu 15 000 hommes sur terre et a battu l'armée de Jacques II. Cette glorieuse révolution, c'est aussi une révolution sur le plan des droits, puisqu'il y a ce qu'on appelle la Bill of Rights, donc la loi des libertés fondamentales. Évidemment, elle n'a rien à voir avec les pratiques du XXe siècle, mais ça a été une avancée tout à fait considérable. Et entre autres, l'habeas corpus. L'habeas corpus, ça veut dire quoi? L'habeas corpus, c'est-à-dire nul ne peut aller en prison sans être passé devant un juge. C'est-à-dire pas de lettre de cachet, si vous voulez, pour comparer à l'histoire de France. Voilà. Donc, Guillaume d'Orange, William le troisième, puisque c'était le mari de Marie II, qui était la fille de Charles II. Hein. Et là, on a une curiosité unique, peut-être dans le monde, mais dans l'histoire d'Angleterre, c'est qu'on a eu deux rois simultanément. Le mari et la femme étaient rois et reines indépendamment, en même temps. Il y avait un trône à deux places. Voilà. C'est la femme qui est morte la première, et donc Guillaume d'Orange a continué jusqu'en 1702. Et ensuite, c'est la reine Anne qui a régné de 1702 à 1714. Deux événements importants également. Act of Settlement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, et ça a été le prétexte, enfin, la motivation plus exactement de la Glorieuse Révolution, c'est qu'on interdit à des catholiques de venir sur le trône. Puisque l'origine de la Révolution vient du fait que Jacques II voulait faire un pouvoir absolu à la Louis XIV, et un pouvoir absolu catholique, c'est-à-dire de renouer avec le pape. Pas de papiste en Angleterre. Je rappelle que le roi est, depuis Henri VIII, le chef de l'Église anglicane. Et l'acte d'union, c'est ce qui a fondé la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'union de l'Écosse avec l'Angleterre et le Pays de Galles. La Grande-Bretagne date de 1707. C'est pas si vieux qu'on le pense. Et ensuite, la lignée des Stuarts s'éteint avec la reine Anne, et donc c'est une branche latérale, c'est-à-dire le mari de Sophie de Hanovre, qui était la petite fille de Jacques Ier, je vais vous montrer un arbre généalogique, qui prend le pouvoir sous le nom de Georges Ier, et donc il y a toute la succession des Georges, il y en a eu un au XXe siècle, Georges VI, donc le père de la reine Élisabeth, et les Georges, c'est une dynastie allemande. Et le roi Georges n'a jamais voulu parler un mot d'anglais en étant sur le trône d'Angleterre. Voilà. Un petit résumé en 5 minutes de l'histoire d'Angleterre du XVIIe siècle. Ah voilà. Je ne vais pas trop passer dans le détail. Je donnerai ce fichier à M. Bétrémieux. Vous ne pourrez pas lire devant. le soir à la veillée. Pour bien... Donc c'est ce que je viens de vous dire, mais sous forme d'un arbre généalogique. La branche latérale, c'est-à-dire les jacobites, c'est-à-dire la descendance lointaine des rois catholiques d'Écosse, les jacobites, ce sont les tentatives de reprise du pouvoir par des rois catholiques. Ça n'a jamais marché, malgré l'aide puissante qu'a apportée Louis XIV à des tentatives diverses de débarquement en Irlande, etc. etc. Et voilà, donc Sophie de Hanovre, la voilà là, c'était une femme savante, Sophie de Hanovre. C'était une femme d'une intelligence remarquable et elle était du niveau juste en dessous de Newton, si vous voulez, au niveau de la tête et des lettres, costaud. Georges Ier, pas terrible. Bon, c'est pas le sujet de la conférence. Voilà. Parlons de Newton. Donc, Newton, c'est paradoxalement, c'est facile à faire parce que la séquence des événements est pas brouillée. L'enfance, les études, les années fécondes, les travaux à Cambridge, les postes politiques, la Royal Society, la fin de vie et l'héritage. Et ça, en 84 ans. Il y a d'autres personnages qui ont des parcours beaucoup plus sinueux. Alors, je me suis amusé, là, entre guillemets, à faire une timeline, comme on dit en français, c'est-à-dire un calendrier, si vous voulez, des événements qui se passent aussi bien du point de vue politique et des grands scientifiques qui existaient à cette époque. Alors, la ligne de M. Newton, c'est la barre qui est ici. Hein ? Voilà, l'enfance, les études, Cambridge, Londres. La succession des rois d'Angleterre. Cromwell, il est là, je l'ai mis à part, puis je l'ai mis rouge, pour qu'on voit bien que ce n'était pas un tendre, celui-là. D'ailleurs, en anglais, on dit jamais, on ne sait pas comment appeler Cromwell. Alors ça s'appelle en anglais interregnum, entre les deux règnes. Donc ça n'a pas de nom. Les 10 ans de Cromwell, ça n'a pas de nom. C'est entre deux règnes, interregnum. Alors là, j'ai mis la localisation des différentes œuvres qu'il a pondues. Vous regarderez tout ça dans le détail. C'est des petites pattes de mouche, donc c'est impossible. Je vais citer quand même les noms magiques que j'évoquerai plusieurs fois dans le parcours du personnage. Monsieur Boyle, on va dire, c'est l'ancêtre de Lavoisier. C'est le fondateur de la chimie moderne analytique avant Lavoisier, en Angleterre. Ensuite, Hooke, voilà, un gars avec qui il va beaucoup se disputer, qui est plutôt un inventeur génial, on va dire, j'y reviendrai dans le détail. Et Hooke, en particulier, il a travaillé avec un personnage dont on va parler plusieurs fois, c'est Denis Papin. C'est un nom qui vous dit quelque chose, ça. Parce que contrairement à ce qu'on dit, Denis Papin fait toute sa carrière en Angleterre et pas en France. On ne dit rien à l'école. Il y a quelque chose à faire à l'éducation nationale, hein, quand même. Je m'adresse. Hein. Oldenburg, j'en parlerai, c'était le secrétaire de la Royal Society. Halley, la fameuse comète de Halley, j'en parlerai. Flamsteed, il est beaucoup moins connu, mais quand vous sortirez de la salle, vous le connaîtrez beaucoup mieux. C'est un autre astronome. Et Leibniz. Alors Leibniz, tout le monde connaît le nom, personne ne sait ce qu'il a fait. Et j'ai une conférence sur Leibniz, mais ce n'est pas pour faire de la pub. Hein. Parce qu'elle est difficile, celle-là. Parce que lui, il a fait des... Et le dernier que j'ai mis sur ce graphique, c'est Huygens. Alors, prononcé à la hollandaise, ça donne quelque chose du genre « Huygens ». Voilà, si vous dites « Huygens » à Amsterdam, qui c'est celui-là ?« Huygens ». Voilà. Et Huygens, c'était un astronome aussi qui a inventé le mouvement échappement, en particulier des pendules, c'est-à-dire le mouvement échappement, je ne peux pas dire, et qui sont dans toutes les horloges mécaniques depuis son temps. Et il a découvert le satellite de Saturne qui s'appelle Titan. Et Titan, c'était son surnom. On l'appelait familièrement Titan. Christian Huygens, parce qu'il y en a deux de Huygens. Il y a son grand frère, Constantin Huygens, qui était le secrétaire particulier de Guillaume II et de Guillaume III d'Orange. Ça aide d'avoir des relations, vous voyez ce que je veux dire. Et ce monsieur Christian Huygens, pourquoi j'en parle ? C'est qu'il a été le premier secrétaire perpétuel de l'Académie, de l'Académie des sciences française, attiré par monsieur Colbert. Ça, c'est un nom que vous connaissez. Et imaginez qu'en 1666, le ministre principal de Louis XIV fasse venir un scientifique protestant en France pour être le premier secrétaire de l'Académie des sciences. Colbert était puissant. Et Louis XIV s'en fiche un petit peu. Lui voulait des gens qui fassent bien dans sa cour. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous placer un petit peu le tableau des personnages principaux de l'aventure. Ah, revenons à notre Newton. Qu'est-ce que ça veut dire, Newton ? New Town, c'est Monsieur Villeneuve, la nouvelle ville. Monsieur Villeneuve. J'aime bien franciser les noms étrangers comme ça. Pourquoi il s'appelle Monsieur Villeneuve ? Ben parce qu'il y a une très grande expansion économique dans le siècle qui a précédé sa naissance, qui a fait qu'il y a beaucoup de villes qui se sont créées, des gros villages qui ont grossi, et on cherchait des noms, ben, tout le monde, tous les nouveaux villages s'appelaient Newton, Newtown. Et donc, comme il était né dans Newtown, voilà, tout le monde s'appelait Newtown. D'ailleurs, on va en voir d'autres dans son parcours. Son père est un gros fermier illettré. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif, puisque à peu près 70% des gens étaient illettrés à cette époque. Hein. Il est mort avant sa naissance. Il devait être né sous une bonne étoile, puisqu'il est né le 25 décembre 1642. Attention, calendrier julien. Donc, il est né à l'Épiphanie, le 6 janvier, en calendrier grégorien. Et donc, il y a souvent un problème de date de naissance parce que ça dépend du... Je rappelle que le calendrier grégorien, il a fallu encore 2 siècles pour que l'Angleterre l'adopte. Alors là, il y avait sûrement quand même des gènes de génie. Hein. Donc, ça vient plutôt de la branche maternelle. Alors, Anna Heyskourk, elle avait un oncle qui avait fait des études à Trinity College où Isaac ira. Et donc, on découvrira, c'est le schéma habituel, au moment de sa prime enfance, qu'il est doué. Et donc, l'environnement le poussera à faire des études aux grandes dames de sa mère, qui, évidemment, voudrait qu'il s'occupe de la ferme, hein, puisque c'est le seul enfant qu'elle ait. Et donc, c'est normal, il faudra qu'elle... Mais la mère, il faut qu'elle ait aussi des subsides. Donc, dès qu'elle est veuve, eh bien, ça se pratique beaucoup à l'époque. On se remarie. Elle s'est remariée avec un pasteur, riche, bien sûr. C'est mieux, Barnabas Smith, en 1646. Et on verra par la suite des événements qu'il, quand elle décédera, par les méandres des héritages à l'anglaise, c'est lui qui... héritera pour l'essentiel de la fortune, alors qu'elle a eu 2 enfants avec son pasteur. Donc, il avait un demi-frère, une demi-sœur. Alors, ça, il a très mal vécu, ce que j'ai mis, le fait que sa mère l'ait laissé tomber dans sa petite enfance, et son caractère introverti, qui devait être un peu naturel, ça a été renforcé par cet épisode de l'enfance. Il va à l'école primaire comme tout le monde. C'est quand même un paysan aisé. Hein, ça n'est pas mais c'est quand même un roturier de la basse classe. École secondaire à Grantham, et il habite chez ce qu'on appellerait aujourd'hui le pharmacien, c'est-à-dire le barbier, l'apothicaire, John Stocks. Et John Stocks, c'est un érudit. Il a une grosse bibliothèque. Et là, il a pompé... l'intérêt pour les livres et la connaissance, certainement chez John Stocks. Et donc, son oncle, enfin l'oncle de sa mère, pousse très fort pour qu'il aille à Trinity College. Trinity College, le collège, alors, college en anglais, ça ne veut pas dire collège, ça veut dire école supérieure. Hein. Donc c'est, on dirait, c'est difficile à comparer, mais après le bac, si vous voulez. Alors on passe un certain nombre d'études. Ces collèges, ça ne sert qu'à faire une seule chose, des prêtres, au bout du compte. Donc il y a 6 ans d'études, et au bout de 6 ans, on doit prendre les ordres dans l'église anglicane, parce que c'est la contrepartie du fait qu'on leur donne l'enseignement. Donc, il y a des grades. Alors, en particulier, subsizar, donc c'est on dirait en français aujourd'hui le bisu. Hein, et les premières années servent de larbin aux deuxième année et aux troisième année. Et le larbin, ça sert à faire le lit et à vider les pots de chambre, entre autres. Voilà. Et donc, il n'était pas tellement habitué à ça, puisque tout en venant d'un milieu rural, il avait certainement des serviteurs chez lui. Donc, de passer au vidage de pots de chambre à partir de 18 ans, il ne l'a jamais explicitement dit, mais ses biographes disent que ça a dû quand même le marquer un petit peu. D'ailleurs, après, il prendra également des subsizars pour lui vider son propre pot de chambre, bien sûr. C'est le simple retour des choses. Donc, après, il passe le comme on disait à l'époque, Bachelor of Arts, parce que tout était arts à cette époque, c'est-à-dire, c'est le triclinium, c'est la grammaire, c'est des choses comme ça. On ne fait pas de science, au sens explicite du terme. Et il a son diplôme de bachelier. Et il rentre chez lui, comme beaucoup de monde, puisqu'il y a la peste à Londres, 1665, je vous ai cité cette date, et on se met au vert le temps que ça passe, si vous voulez. Donc lui, il a échappé à ça. Et on dit souvent que c'est à cette époque-là qu'il a fait l'essentiel de ses découvertes scientifiques. Ce qui est grandement vrai, mais pas tout à fait vrai, c'est aussi un petit peu pour dorer la pilule à sa biographie. Alors cet homme, il a tout lu ce qui se faisait du point de vue scientifique. Alors je vous fais grâce de vous relire toute cette liste, hein. Aristote, Copernic, Galilée, Kepler, Fermat, Viète, Descartes, Wallis, Hooke et Huygens. J'arrête sur les deux derniers, là, parce que ces noms-là, bien sûr, vous les connaissez tous par cœur, bien sûr. Mais ces deux noms-là sont, à Hooke, je l'ai déjà évoqué, vous connaissez Viète? Viète, c'est un Français qui est le précurseur de l'algèbre, si vous voulez. À la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, il y a eu une école française, entre guillemets, avec Viète et Fermat, qui a été très riche et qui, Descartes, s'est appuyé dessus, on va dire. Et côté anglais, il y a un mathématicien, un arithméticien, qui n'est pas du tout connu, puisqu'on fait pas, on n'apprend pas l'histoire de l'Angleterre. Vous dites Wallis à n'importe qui dans la rue, à Londres, les gens savent qui c'est. Vous dites Wallis ici, personne. Maintenant, vous savez qui c'est. C'est un grand mathématicien de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et Huygens, je vous en ai déjà parlé, Horlogium, c'est son œuvre maîtresse sur les pendules. Alors là, on rentre dans ce qu'on appelle la biographie canonique. C'est Anni Mirabilis. Donc entre 1664 et 1666, l'essentiel des bases de son œuvre scientifique sont créées. Alors si vous regardez bien les dates, 1664, il est encore à Cambridge. Donc il est encore dans ses études. Donc il a déjà pondu des choses. J'ai oublié de dire quelque chose avant, là. Il a une méthode de travail qui est tout à fait particulière. Leibniz sera un petit peu aussi comme ça, c'est-à-dire il lit du matin jusqu'au soir, et pour ne pas dire la nuit, puisqu'il dort à peu près en moyenne 4 heures par nuit, hein, il prend systématiquement des notes. Il recopie, il n'y a pas de photocopieuse à l'époque, je rappelle. Il prend systématiquement, à la plume d'oie, il écrit tout ce qu'il lit. Donc il a une mémorisation qui est basée sur l'écrit. Et on a beaucoup d'œuvres qui sont perdues maintenant, qui ont été retrouvées. Également, c'est la même chose chez Leibniz, parce que ces auteurs avaient fait des copies personnelles d'œuvres originales qui ont été perdues. D'ailleurs, il y a des tableaux où on le voit à la planche avec la chandelle et où il est en train... Donc, il y a le livre à la main gauche qui est ouvert, il a sa feuille de papier et il écrit. Je vous montrerai des exemples de son écriture. Donc, en 1664, il a fait l'ébauche de ce qu'on appelle aujourd'hui en langage moderne du calcul différentiel. Lui, il appelait ça le calcul des fluxions. J'essaierai très simplement de vous expliquer de quoi il s'agit en faisant le minimum de formules. OK, mais c'est dans la deuxième phase, dans la deuxième partie. Donc, il retourne à la maison, à Woolthorpe, et il fait sa deuxième grande catégorie de découvertes, c'est tout ce qui concerne la lumière. On va considérer que c'est Newton qui est à la base de la théorie de la lumière qui est juste et qu'on connaît encore aujourd'hui. La lumière est une composition de différentes couleurs, hein, c'est l'arc-en-ciel, hein, et si on recompose l'arc-en-ciel, on recrée de la lumière blanche. Alors ça, c'était le premier point de la théorie de la lumière. Deuxième point de la théorie de la lumière, c'est tous les objets n'ont aucune couleur par eux-mêmes. La couleur qu'on voit des objets, c'est la couleur que les objets réfléchissent. Les objets n'ont aucune couleur. Si on vous éclaire en rouge, vous paraîtrez rouge. Si on vous éclaire en bleu, vous paraîtrez bleu. Mais vous, vous n'avez pas de couleur. Je m'excuse de vous le dire, mais vous n'avez que la couleur que vous réfléchissez. Voilà. Donc, il continue son cursus. Donc, la paix s'est passée. 1667, Fellow. Donc là, il a la médaille, hein, of Trinity College, maîtrise. On n'est pas très loin dans les grades de l'université actuelle. Et en 1669, il construit un laboratoire d'alchimie dans sa chambre, et je vous en dirai deux mots, et il fait le fameux télescope à réflexion, j'en parlerai dans le détail tout à l'heure, c'est un bricoleur impénitent, non seulement c'est un homme de lecture, mais il sait tout faire avec ses mains. Il sait faire de la mécanique, il sait polir des lentilles, mais à l'époque, tout le monde polit des lentilles. Monsieur Huygens vivait de ça. Pourquoi on polissait des lentilles? Tiens, question bête. Ben, tout simplement pour lire, il fallait des lentilles. L'imprimerie a poussé au développement de l'optique pour que les papilles que nous sommes puissent lire les œuvres imprimées. L'impression, optique. Sans impression, pas d'optique. OK ? Puis les gens viennent plus vieux, en particulier lui, donc il a besoin de binocles, comme moi. Alors, il a fini son cours, et puis là, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je fais prof. C'est un parcours classique, prof à Trinity College. Alors, il fait des cours sur l'optique géométrique. D'après les archives qu'on a pu retrouver, quand il arrive à trouver, je suis meilleur que lui, puisqu'il a au mieux un ou deux élèves. Ça passionne pas les foules. Hein. On sait ce qu'il a fait parce qu'il y avait une règle à Trinity College, c'est-à-dire tout ce qu'on appelait les conférences, ça devait être écrit et déposé au secrétariat, si vous voulez, du Trinity College. Donc on a les manuscrits des conférences. Il n'y avait pas la liste de présence des élèves, mais on sait qu'ils avaient fait tel ou tel cours. Donc ça, c'est précieux pour les historiens. Alors, c'est son maître, puisqu'il y a toujours un maître, c'est un gars qui s'appelle Isaac Barrow, qui est un mathématicien. Et grâce à lui, on va dire, Barrow, c'est un mathématicien, mais intrigant et courtisan. Et alors là, j'ai simplement mentionné le fait que son petit télescope qui était sympathique, il lui dit, ben, il faut le montrer à la Royal Society. Isaac Newton, c'est un gars qui est très introverti. Donc tout ce qu'il fait, il le fait pour lui. Et s'il n'avait jamais eu un entourage qui le pousse à montrer et ses œuvres et ses réalisations, on n'aurait jamais su qu'il avait existé. Alors, Barrault le pousse de le machin. Donc, les gens de la Royal Society, dont je parlerai beaucoup plus dans le détail, s'extasient devant cette merveille et lui donnent la médaille de fellow, c'est-à-dire associé à la Royal Society. Qu'est-ce que c'est que la Royal Society ? C'est l'équivalent de l'Académie des sciences, mais en Angleterre. Et il présente sa théorie, enfin, il ne présente pas. Il fait un écrit qui dit « Voilà ma théorie de la lumière ». Et c'est là que Hooke sort du bois en disant « Qu'est-ce que c'est que cette andouille ? Qu'est-ce qu'il raconte que des idioties ? C'est nul, c'est non avenu. Newton n'est pas là. Hein, il a envoyé une lettre et elle est lue devant les gens de la Royal Society. » Et Hooke, de toute façon, il a toujours tout inventé, et tout ce qui vient de l'extérieur, c'est de la bêtise, puisque c'est lui qui a tout inventé avant tous les autres. Donc c'est un colérique, c'est un grand scientifique, mais c'est un colérique qui est un peu pénible. On verra après qu'il a eu des rapports difficiles avec notre ami Isaac. Et là, il y a un truc bizarre qui se passe. Normalement, il aurait dû prendre les ordres, puisqu'il avait fini tout son cursus universitaire, on dirait aujourd'hui, et il les a pas. Et on n'a pas de document écrit qui explique ça. Il semblerait que, grâce à Barrault et d'autres personnes, il ait obtenu une dispense du roi pour ne pas prendre les ordres. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin de la conférence. Donc, il rentre dans un cursus, on va dire, universitaire classique. Il fait quelques cours où il n'y a pas beaucoup d'élèves, et surtout, il fait sa petite cuisine d'alchimiste, puisque sa passion, c'est l'alchimie. Et ça a été gommé jusqu'au milieu du XXe siècle par ses biographes officiels, parce que l'alchimie, par définition, c'est secret. Donc, comme c'est secret, ben, on ne sait pas. Hein, voilà. Sa mère meurt, bon, il hérite, et là, ça doit être la conjonction des planètes, et les dieux étaient avec Newton et tous les astronomes de l'époque, Flamsteed et Halley. Il y a eu deux comètes en deux années successives, 81 et 82, qui étaient visibles à l'œil nu pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et qui ont, disons, évidemment, fait l'étonnement des foules. Il n'y avait pas de pollution à cette époque-là, donc... on voyait bien les étoiles. Et en 1683, Vikins, qui était son coturne, on va dire, un ami de chambre, qui était en fait son larbin, disons les crûment les choses, qui était aussi un élève, il a dû en avoir marre. On ne sait pas pourquoi il est parti, mais enfin, il est parti. Je crois que c'était pour se marier, c'était une bonne raison. Et donc, il en a trouvé un autre qui s'appelle, tiens, c'est marrant, Humphrey Newton. Et on a cherché à voir s'il était des parentés. Je vous dis, des gens qui s'appelaient Newton, c'est comme Dupont aujourd'hui chez nous, si vous voulez, hein, ou Martin. Donc il est remplacé par Humphrey Newton. Alors ça, ces deux personnes-là, c'est intéressant, parce que comme lui n'écrivait pas sur ce qu'il faisait, il y a pas la notion d'autobiographie, ça ne se faisait pas du tout à l'époque, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a inventé ça, l'autobiographie, d'une certaine façon. Les gens ne parlaient pas d'eux-mêmes. Donc, on n'a que des témoignages, disons, de l'environnement. Mais par définition, comme il en avait très peu, les seuls qui étaient proches de lui, c'est ceux qui vivaient dans sa chambre. Donc, il y en a deux, c'est Vikings et Humphrey Newton. Alors, donc, c'est ce que j'évoquais rapidement. La période 85-88, Jacques II essaye de mettre des régents catholiques dans les universités, en particulier à Cambridge, et lui participe à des pétitions et à des groupements, de protestations contre le fait qu'il y ait des catholiques, mais non seulement qu'ils soient catholiques, mais en plus ils n'ont aucun grade universitaire, ils sont nuls comme des crasses, ou crasses comme des nuls. Donc, c'est trop. Catholique plus nul, non, on n'en veut pas. Et donc le roi dit « Fermez-la, et si vous n'êtes pas content, il va vous arriver des bricoles ». C'est à lui qu'il est arrivé des bricoles. Donc, la glorieuse révolution arrive, et il a, on a au moins un témoignage écrit comme quoi il a dîné une fois avec Guillaume d'Orange. Pourquoi il a dîné avec Guillaume d'Orange ? Ben, tout simplement parce qu'il était dans ce... c'est plus compliqué que ça. Les élections au Parlement de Londres donnaient le privilège, chaque université pouvait envoyer chaque année, les élections c'était annuel. Et chaque université élisait deux délégués à la Chambre des communes pour l'année en cours. Et il a, puisqu'il s'était manifesté pour ses manifestations anti-catholiques, quand le nouveau régime est arrivé, eh bien, évidemment, son université, Cambridge, il était élu numéro 2 sur la liste. Il n'était pas numéro 1, il était numéro 2. Et donc, il a été un an député aux communes en 1689-1690. Et donc, c'est là, c'est à cette occasion-là qu'il a rencontré Guillaume d'Orange, qui était donc le roi. Ah, voilà où logeait Newton. Newton logeait au premier étage de cette aile ici. Donc ça, c'est la magnifique chapelle du King's College qui est collée au Trinity College. Et je suis allé à Cambridge et j'ai pris la même photo. Voilà la photo. Alors ça a un peu changé, mais on reconnaît le bâtiment ici. Et les guides mauvais vous disent que c'est le pommier de Newton. Il y a belle lurette qui l'a disparu. C'est la quatrième génération. Par contre, celui-là, c'est bien la statue de Newton, puisque il a été, bien sûr, statufié à la fin de sa vie. Disons, toute la communauté a reconnu ses mérites. Je vous expliquerai pourquoi. Et là, on va arriver au troisième pied de son œuvre, et c'est le pied majeur, c'est la théorie de la gravitation. Alors la théorie de la gravitation, comme tout astronome, il s'intéresse au mouvement des planètes, Kepler et tout et tout, et il a fait des trucs tout seul dans son petit coin. Et il n'en a parlé à personne. Mais il est connu avec son télescope comme un savant périphérique de la Royal Society. Et à la Royal Society, le pivot de la Royal Society, c'est Christopher Wren. Alors, vous connaissez tous Christopher Wren. Christopher Wren, je dirais, si on veut faire un équivalent français, c'est Mansart. C'est le grand architecte, c'est lui qui a conçu Saint-Paul, la cathédrale Saint-Paul. Si vous dites Christopher Wren, le plus nul dans le fond d'un pub sait qui c'est en Angleterre. En France, personne ne sait qui c'est. Hein ? Voilà, une fois de plus. Alors Christopher Wren, lui, il a remarqué à travers les correspondances, il ne l'a pas connu personnellement, Newton. Et donc, il y a des discussions à Londres, au sein de la Royal Society, en disant, il faut quand même qu'on voit... Alors, là, il y a Hooke, évidemment, lui, il a tout inventé. Moi, je sais, les trajectoires autour... Donc, Kepler l'a démontré, mais par l'observation, c'est des ellipses. C'est parce qu'il y a une force d'attraction inverse du carré des distances. Ah bon, alors, il dit, ben, d'accord, ben, montre-le nous. Et puis, les mois passent, et puis Hooke, à part de dire... j'ai tout compris, j'ai tout trouvé, il est incapable d'en faire la démonstration. Et Wren dit, il dit à Halley, qui est là, hein, va donc voir Newton et demande-lui ce qu'il en pense. Donc Halley va chez Newton, il est à Cambridge, il est prof, il lui pose la question, alors comment c'est ? Alors oui, c'est l'inverse du carré des distances. Oui, mais alors comment ? Ah ben moi je l'ai calculé, tiens, j'ai ma note de calcul. Ah, il cherche dans ses papiers. Ah, il dit, c'est bizarre, je ne la trouve plus. Et donc, je sais le démontrer, Et puis, je ne la retrouve plus. Donc, vexé comme un pou, il dit, eh ben, il faut absolument... Et donc, il a reconstitué sa démonstration. Il lui a fallu 7 mois pour reconstituer sa démonstration. Et donc, il a pondu un petit papier... dont je vais le retrouver après. Je vais essayer de retrouver le nom de la... Voilà. Ça s'appelle « De motu corporum migirum », des corps en mouvement et en rotation, qui fait 9 pages, qui est la base de la mécanique d'aujourd'hui. Et là, tous les gars de la Royal Society sont tombés de leur chaise. Et donc, pour démontrer ça, on est obligé d'utiliser les rudiments du calcul différentiel. Je ne vous ferai pas la démonstration, je serai capable de la faire, mais je n'ai pas le temps, il faut 1h30. Voilà. Et donc, lui, on lui a posé la question, il a fini, avec un peu de mal, à cracher sa démonstration. Voilà. Il a fait son boulot, et puis il retourne à son alchimie, puis les choses retombent un peu dans la poussière. Alors, les gars de la Royal Society, j'ai dit, c'est quand même un peu juste, il faudrait quand même qu'il se remue un peu et qu'il en fasse un petit peu plus. Et alors, à partir de ce moment-là, Halley, qui est tombé sous le charme, on va dire, scientifique du Newton, parce qu'il n'était pas tellement charmant, j'y reviendrai après, lui casse les pieds pendant des années, en disant, il faut que tu fasses quelque chose. Enfin, il ne lui parle pas comme ça, bien sûr. Et à un moment, il y a un déclic qui se fait. Il a dit, ben oui, je vais cracher tout ce que j'ai dans la tête, qui était latent depuis plus d'une dizaine d'années. Parce que ça ne vient pas comme ça sous la plume. Et il pond quelque chose qui s'appelle les philosophies naturalistes Principia Mathematica. Il y a passé... J'ai dû le mettre là-dedans, non ? J'ai mis plus loin, je dis ça de mémoire, presque 2 ans, à ne faire que ça. Mais alors, tel le professeur Cosinus, il ne dort pas la nuit, il s'en va dans la rue, il revient en arrière, il remonte dans sa chambre, il écrit un truc sur un bout de papier, et ça, c'est des témoignages que l'on a de son entourage direct. Il le montre à la Royal Society, pas lui, allez ! Oh, c'est... C'est un coup de tonnerre dans le monde de la science, parce que c'est vraiment un progrès tout à fait considérable dans la mathématisation de la nature et dans la synthèse de toutes les connaissances qui sont connues à cette époque-là. Alors, la Royal Society, toujours généreuse, bénit, ah c'est bien, bon c'est bien, et ben ma foi, s'il faudrait que ce soit publié, ben oui, publions-le. Donc j'accepte que mettre le nom Royal Society sur le frontispice, mais alors à condition qu'il y ait quelqu'un qui paye. Halley est riche et financera l'édition des philosophies Principia Mathematica. Et ça a arrosé l'Europe entière. Et là, coup de tonnerre non seulement à Londres, coup de tonnerre dans l'Europe entière. Et Newton, d'un seul coup, sort du néant et il est mis tout de suite sur un piédestal, alors que personne ne le connaît. Personne ne l'a jamais vu. C'est un petit prof, disons, obscur, à Trinity College, à Cambridge. Alors, là, donc, il est connu. Humphrey Newton, lui aussi, il en a marre à tirer. Et là, il a quelques occasions d'aller à Londres. Ben, j'en ai cité une, c'est qu'il est député à la Chambre des communes. Et là, il a pointé la feuille de présence. On n'a aucune trace de son action législative. Mais il a bien été là. Par contre, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chez les marchands d'alchimie. Parce que où est-ce qu'on trouve les drogues, les fioles, les machins, les cornues, hein ? À Londres. Donc, à chaque fois qu'il fait une députation, il fait ses courses pour acheter ses accessoires d'alchimie. Alors, tous ses copains, entre guillemets, j'ai cité Vrenne et compagnie, disent, celui-là, il faut quand même qu'on l'installe, qu'on lui donne, comme on disait à l'époque, une situation. Ce que je rappelle que comme prof, c'était déjà le cas à l'époque... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça ne roulait pas sur l'or. Et donc, si on a un bon poste à Londres, et là, on est près du bon Dieu, eh bien, on a des traitements annuels qui sont d'un ordre de grandeur nettement supérieur. Et puis finalement, ben, ça ne vient pas. Alors lui, il ne fait pas d'action de lobbying, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'il n'est pas là, il est à Cambridge. Mais ses copains en font plus ou moins. Et d'ailleurs, dans quelques lettres, on voit qu'il se plaint un petit peu en disant, ben, dis donc, ça met un peu de temps. Alors, ce n'est pas qu'il veuille un poste absolument, mais enfin, s'il gagnait un petit peu plus, bon, il serait content, bien sûr. Non, mais on signale même une dépression nerveuse en 1693 et qu'on attribue à un empoisonnement au mercure. Je rappelle que l'alchimie, le couteau suisse de l'alchimie, c'est le mercure. Alors, les gens sont les mains là-dedans et tout, et on sait que c'est très toxique. À l'époque, on ne le savait pas. Et en 1693, bingo, il obtient enfin un poste grâce à Lord Montagu. Voilà. Il est beau, celui-là. Et donc, Lord Montagu, qui était chancelier de l'échiquier, s'il vous plaît, chancelier de l'échiquier, c'est donc le ministre des Finances. Hein ? Et il l'avait connu à Trinity College, parce qu'il est complètement contemporain, donc c'était un condisciple, si vous voulez. Et il est nommé maître de la monnaie, master of the mint. Alors je dirais, pour donner un équivalent, c'est chef de l'imprimerie des billets de banque à Rium, pour donner un équivalent actuel, si vous voulez. Hein ? Et c'est des postes à vie, et donc le traitement, il est multiplié par 10 par rapport à ce qu'il touche comme prof. Donc il s'installe à Londres. Mais à la grande stupéfaction de tout l'environnement, c'est qu'il s'en occupe. Parce que tous les gens qui ont ces postes-là, ils émargent, voilà, mais ils ne font rien. Voilà, il laisse les fonctionnaires, ça me rappelle quelque chose. Il laisse les fonctionnaires faire tourner la boutique, mais eux, ils ne font rien, ils touchent la paye. Et là, extraordinaire, on en trouve un qui sort de nulle part, et il s'en occupe. Mais comme il s'en occupe, il s'engueule avec les fonctionnaires. Puisque lui, il dit, c'est moi le chef, et vous allez faire comme ça. Et on n'avait jamais vu ça, ça ne se fait pas. Hein ? Il s'installe à la Tour de Londres, puisque la Tour de Londres, c'est l'endroit où on frappait la monnaie. Et dans la Tour de Londres, il y a aussi les gardes, vous savez, vous êtes allé à la Tour de Londres avec le H, là. C'est déjà ceux-là qui étaient là, à cette époque-là. Et ils s'engueulent avec eux, parce qu'il faut de la place pour mettre les ateliers. Alors, évacuez-moi ce coin-là. Imaginez l'ambiance qui règne. Il a refait tous les plans de la Tour de Londres lui-même, pour faire les ateliers. Un fou. À nouveau, il est réélu en 1701, membre du Parlement, de la même façon, hein, par le même, parce qu'il est toujours, il a toujours son poste de prof à Cambridge, il n'enseigne plus, machin, il finit quand même par démissionner. Bon, il ne faut quand même pas la cumule des mandats, quand même, à cette époque-là. Non, quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Voilà. Et donc, il est élu président de la Royal Society. Et encore une fois, c'est à cause ou grâce à Wren. Parce que Hooke voulait que ce soit Wren qui était tout à fait à l'origine de la Royal Society en 1660. Là, qu'on est 30 ans après, Wren, il est un peu comme ça, vous voyez. Il est un peu fatigué en disant, mon général Boll, je suis trop vieux pour être président. Vous avez qu'à présenter Newton. Hooke, qui peut pas le blairer. Bon, il se présente, enfin, on le présente, c'est pas lui qui fait acte de candidature, et il est élu. Les élections sont annuelles, il sera élu de 1703 à 1727, tous les ans, il sera reconduit. Et alors là, ça va pas rigoler non plus. J'y reviendrai. Il est anobli par la reine Anne. Alors, contrairement à ce qu'on dit toujours dans les biographies, c'est pas du tout parce que c'est un grand génie, mais c'est tout simplement parce qu'il est dans le parti qui soutient la reine. C'est pour ça, c'est toujours de la politique, politicienne. La reine Anne lui donne le grade de chevalier, on dit maintenant Sir Isaac Newton. Sir. Catherine Barton. Celle-là, c'était une rapide. Donc c'est sa demi-nièce qui, puisqu'elle a fini par être la maîtresse de Montagu, tout ça, c'est de la... Bon. Ça me rappelle des choses, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, elle lui sert de gouvernante, si vous voulez. Et il s'en est toujours beaucoup occupé, parce que c'est sa seule famille, si vous voulez, sa demi-nièce. Et donc, elle a beaucoup d'entre gens, à tout point de vue. Elle est intelligente, ça doit être, c'est la bonne ligne. Et il y a un gars qui vient dans son entourage, qui s'appelle John Conduit, qui est aussi un intrigant militaire, qui n'est pas bête non plus, et qui la marie. Et quand Newton mourra, c'est lui qui aura le poste de maître de la monnaie. Voilà, c'est dynastique. Voilà, très rapidement, voilà, à grande ligne, la vie du sieur Newton. La Royal Society, dont j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est un peu le même processus, si vous voulez, qu'en France. Il y avait déjà des groupes de scientifiques qui discutaient entre eux, et à un certain moment, ça coagule, on va dire, et c'est fondé par Charles II. C'est pas fondé, c'est-à-dire il y a une charte qu'on a mise sur le bureau de Charles II. On lui dit, tu signes là, voilà. Mais elle est fondée par Charles II. Et en fait, c'est le groupe qui est à Gresham College. C'est un truc qui a disparu maintenant à Londres, et où il y a tous les grands scientifiques de l'époque, entre autres Wren et Hooke, Oldenburg et Boyle. Hooke, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est ce qu'on appelle curator des experiments, c'est le chef des expériences, puisque non seulement ça discute, mais on fait des manips, et on discute des résultats expérimentaux. Je rappelle que les Anglais sont les inventeurs de la science expérimentale. Il y avait Blanc. Le Bacon, Francis Bacon, au début du XVIIe siècle, qui a dit la connaissance ne vient pas des livres, c'est pas Aristote, elle vient de l'expérience. Donc c'est là l'école empiriste, comme on dit en philosophie. Et les successeurs de Francis Bacon, ben, entre autres, c'est Boyle, donc le précurseur de la chimie moderne. Voilà notre Denis Papin qui émerge, là. Denis Papin, alors, il n'a pas inventé la machine à vapeur comme on vous l'apprend tout le temps à l'école primaire. Il a inventé la cocotte minute, et pas la machine à vapeur, l'autocuiseur, pour la stérilisation des aliments. Celui qui a inventé la machine à vapeur, c'est un monsieur, c'est aussi un Anglais, c'est monsieur Newcomen. Voilà. Au début du XVIIIe siècle. Voilà. Donc, Denis Papin, qui est un médecin qui est né à Blois, comme vous le savez tous, et qui a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre, dans la mouvance, si vous voulez, de la Royal Society. Il a travaillé avec Huygens en France et il a travaillé avec Boyle. Et donc, c'était tout un réseau de correspondances, tout à fait. Et on peut dire que ça a quand même un peu copié. Enfin, il y a eu une émulation entre l'Académie des sciences et la Royal Society, c'est quasi simultané au niveau de la Fondation. 1660, la Royal Society, 1666, l'Académie des sciences française, mais parce qu'il y avait déjà des deux côtés un noyau de scientifiques costaud qui était un socle suffisant pour fonder ces académies scientifiques. Et on verra que son action quand il était président, c'est-à-dire pendant 23 ans, a été tout à fait considérable. Un personnage qui est totalement inconnu, mais qui est pareil, encore, Oldenburg. Alors lui, c'est pas un Anglais, mais c'est un Allemand, comme son nom l'indique, c'est un théologien allemand, mais qui jouait le rôle d'une plateforme de correspondance, on va dire. Et c'était le secrétaire de l'Académie de la Royal Society, et il écrivait à tout le monde, et c'était le point de rencontre, par exemple, de Fermat, Descartes, et tout passait par Oldenburg. Viète, il était mort déjà. Bon, c'est Leibniz, voilà. Et donc, il jouait le rôle de quelqu'un, alors qu'un Français, l'embryon de l'Académie des sciences françaises, qui était le noyau de l'Académie française Embryon. Alors ça, personne ne le sait. Et c'est un scandale. C'est le père Mersenne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du père Mersenne? Oui, non, mais au moins il y en a un qui en a entendu parler. Le père Mersenne, c'est l'équivalent d'Oldenburg, mais c'était l'Academia Parisiensis, qui a été l'embryon de l'Académie des sciences françaises. Et il a inventé deux choses. Les philosophical transactions, c'est-à-dire de faire des revues périodiques qui publient les travaux de l'Académie. Ça n'existait nulle part ailleurs. Il y avait bien l'Académie dei Lincei en Italie, qui était la première académie, mais il n'y avait pas d'écrit. Là, on fait des comptes rendus, donc ça s'appelle les Philosophical Transactions, et en France, ça s'appelle le Journal des Savants, de l'Académie, pas de l'Académie française, de l'Académie des Sciences, et ce qu'on appelle la Peer Review, et qui est toujours utilisé maintenant, c'est-à-dire la revue par les pairs, c'est-à-dire je fais un article scientifique et je l'envoie à d'autres en disant « qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ?» Et donc si les autres disent « eh ben oui, c'est digne d'intérêt et on ne voit pas d'erreur », eh bien, on publie. Et c'est toujours cette méthode qui est utilisée dans les grandes revues scientifiques, dont on parle tous les jours, là, les Lancet ou les choses comme ça, qui sont utilisées en particulier dans les revues anglo-saxonnes. Encore un que vous ne connaissez pas, Hans Sloane. Hans Sloane, c'est le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le British Museum, puisque le British Museum, c'est une amplification de sa bibliothèque. Il a légué tous ses biens au British Museum. Et Hans Sloane, alors il est contemporain de Newton et il avait un caractère de cochon, un de plus. C'est un médecin zoologiste, c'est lui qui a inventé le cacao. Vous ne saviez pas ça ? Mais par contre, disons qu'il y avait deux personnalités. Lui, il est plutôt extraverti et Newton plutôt introverti. Il y a eu un équilibre des pouvoirs qui s'est fait qu'entre le secrétaire, puisqu'il était le secrétaire de la Royal Society pendant que Newton était président, ça a finalement globalement bien marché et il a pris la succession de Newton quand Newton est décédé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à la Royal Society ? En liaison avec Sloane, hein, bien sûr. J'ai mis management dictatorial. Il a institué des réunions hebdomadaires. Toutes les semaines, il n'y a pas de vacances de scolaires, toutes les semaines, il y a une réunion régulière. Et de 1703 à 1727, il a assisté à toutes les réunions, sauf trois, le mois avant sa mort. Toutes les réunions, sévères comme la justice, hein, il a mis des procédures, il a organisé, puisqu'on avait déjà vu dans son poste de Master of the Mint qu'il était un organisateur né. Mais ça, ce n'était pas dans son CV, si vous voulez. Ça s'est révélé dans ses fonctions. Il a attendu que son rival, qui s'appelait Hooke, comme je l'ai dit, meure en 1704, et il a pondu tout ce qui concernait l'optique, parce que Hooke, son grand ouvrage, c'est un ouvrage sur la micrographie, si vous voulez. C'est lui qui a inventé le nom de cellule, pour les cellules vivantes, si vous voulez. Et donc, on a même dit qu'il avait brûlé toutes ses archives, parce qu'on ne les avait pas retrouvées, et il y a 3 ans, dans un placard, on a retrouvé les archives de Hooke. Donc Newton ne les avait pas brûlées. Mais il y a seulement 3 ans qu'on les a retrouvées. Donc optique, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc les affaires de la monnaie, c'est costaud. J'y reviendrai dans le débat. Donc voilà, il vient. Voilà. Alors je vous montre son mausolée. Alors c'est à Westminster, si vous avez l'occasion d'y aller. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. Hein. C'est son mausolée, mais là, c'est une photo que j'ai prise moi-même à Westminster pour vous montrer où c'est. C'est-à-dire, quand vous regardez le cœur, c'est sur le jubé à gauche. Hein. Parce qu'il y a tellement de trucs dans l'abbaye de Westminster, si vous ne savez pas où c'est, vous demandez au gardien, vous allez me dire. Mais enfin, comme il y a beaucoup de monde, ce n'est pas facile. Donc, c'est là qu'il faut regarder. C'est un peu kitsch, mais enfin, bon, ça existe. Ah, donc, vous voyez, la thématique du mausolée, c'est la gravitation universelle, bien évidemment. Hein. Il a démontré les mécanismes de l'univers. Kepler les avait mesurés, on va dire, et lui les a démontrés mathématiquement. Alors, je vous en ai déjà suffisamment dit pour essayer de brosser un tableau du personnage. C'est un homme solitaire, introverti, fuyant les critiques. Il fuit aussi les femmes. Il n'y a aucune affaire de femme, jamais, et apparemment, il était asexué. Hein, on n'a rien trouvé, ni dans les témoignages, ni dans les lettres, sur ce sujet-là. Alors, évidemment, il est célibataire. Correspondance épisodique et bruit facile. Il n'y avait pas de mail à cette époque-là, comme vous le savez. Et donc, on lui écrivait des lettres en demandant des explications sur ses œuvres. Alors, il répondait une première fois, puis à la deux ou troisième, en disant « Écoutez, vous me cassez les pieds, j'arrête la correspondance. » Écrivain compulsif, je vous l'ai déjà décrit, copieur systématique, très nombreux croquis, très habile de ses mains, construit de nombreux appareils. Je vais vous montrer le télescope. Organisateur, homme de pouvoir, et ça ne se voyait pas dans son environnement à Cambridge. Ça s'est révélé par les postes qu'il a occupés à la fin de sa vie. Retors et rancunier, on le verra à travers les polémiques auxquelles il a été mêlé. Et tenace et patient, c'est le cas des introvertis en général, c'est il lâche pas le morceau. Et ça peut durer des années. Quand il est sûr de son coup, je te tiens, je te lâche pas. Ah, évidemment, peu de témoignages. Après, on a fait une biographie, fameux John Conduite. On a fait une biographie hagiographique. C'est dès qu'on devient très célèbre, une fois qu'on est mort, eh bien, on fait des biographies qui encensent le héros, en particulier John Conduite, et l'histoire de la pomme. Il faut qu'on parle de la pomme. Alors, la pomme, donc. C'est en voyant tomber une pomme qu'il aurait eu l'idée de la gravitation universelle. Il semblerait que ce soit effectivement apocryphe et que ça a été plus ou moins inventé par John Conduite, mais avec l'accord tacite de Newton à la fin de sa vie, parce que l'idée n'est pas idiote, hein, mais l'idée de la gravitation universelle, c'est le fait de dire la Lune, elle tourne autour de la Terre, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est tout le temps en train de tomber sur la Terre, mais elle va tellement vite sur son orbite qu'elle n'arrête pas de tomber en restant sur son orbite. C'est ça l'idée de la gravitation universelle. Donc de dire que les lois qui régissent la chute d'une pomme, c'est-à-dire quelque chose qui est sur la Terre, dans le monde des mortels, elles sont les mêmes que celles qui régissent le ciel. Donc Aristote, badaboum, le microcosme s'est mis en l'air. Donc philosophiquement, c'est une révolution. C'est une révolution. Les lois de l'univers sont les mêmes que sont les lois sur la Terre. Et ça, c'était vraiment une révolution scientifique et philosophique. Alors, qui est-ce qui a mis à la mode l'histoire de la pomme ? C'est toujours le même, Voltaire. Je rappelle que Voltaire a fait les lettres anglaises. Il n'a pas connu Newton, puisqu'il est arrivé. Et Voltaire a été le propagateur des idées de Newton sur le continent. Il a fait un ouvrage qui, fait la promotion des idées newtoniennes sur le continent, avec Maupertuis. Maupertuis, c'était le scientifique qui était à l'Académie des sciences françaises. Parce que Voltaire, contrairement à ce qu'on pense, il n'était pas trop mauvais, même en sciences. Ce n'était pas un top, mais il avait une bonne connaissance. Et donc, c'est Voltaire qui a fait de la publicité. C'était un grand publicitaire, finalement, Voltaire, de l'histoire de la pomme. Donc là, je vous ai fait la liste des vedettes. Je ne vais pas recommencer, vous la lirez. Hein, vous voyez, tous ces noms, je les ai cités à un moment ou à un autre. Alors, je voulais vous montrer ça, c'est les endroits. Alors, c'est un casanier, Newton. C'est pas Leibniz, c'est pas Voltaire. Il n'est jamais sorti de sa campagne. Donc, son lieu de naissance, c'est là. Grantham, Woolstorp, Skillington. Cambridge, c'est là où il a fait ses études. Et Londres, c'est là. Il n'a jamais vu la mer. Et c'est lui qui a expliqué le premier le phénomène des marées. Et c'est lui qui a fait la première théorie juste sur la thèse sur les marées. Extraordinaire. Extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui troublait dans le problème des marées ? C'est que la Lune, elle fait. Enfin, ça fait une fois le tour par jour, à peu près, pas tout à fait. C'est bizarre, mais des marées, il y en a deux par jour. Comment on peut expliquer ça ? Bizarre. Supposons que ce soit effectivement l'attraction de la Lune. Qu'il y en ait une, ça va, mais qu'il y en ait deux, dur. Donc lui, il a expliqué pourquoi. Si vous êtes gentil, je vous expliquerai après. Voilà. Alors maintenant, on attaque les grandes découvertes de Newton. Newton, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mathématisé la nature. Donc le principe d'inertie, c'est pas lui qui a inventé le principe d'inertie, déjà Galilée l'avait donné, mais il a formalisé le principe d'inertie, c'est-à-dire que quand je l'ai sur la truc suivante, voilà, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Donc Galilée l'a dit, Descartes l'a écrit, mais il l'a redit d'une façon très formelle. C'est ce qu'on appelle la loi de l'inertie. Là, je n'ai pas pu me passer. Vous connaissez ça. C'est le dessin de Gottlieb. Donc, vous voyez Newton qui reçoit la pomme. Parce que non seulement il la voit, mais là, il la reçoit sur la tête. Donc, c'est là que l'idée de génie lui vient, évidemment. La relativité newtonienne, alors, essayez d'être simple, qui dit... implicitement, le temps est absolu. C'est-à-dire que le temps, il est le même. Il y a une horloge universelle, et qu'on soit ici ou là ou très loin dans l'univers, le temps est absolu. On sait aujourd'hui que c'est faux, puisque c'est la théorie de la relativité de Einstein qui dit que le temps n'est pas absolu. Le temps n'est pas le même dans les satellites que sur la Terre. Mais bon, lui déjà, il avait trouvé ça. Et dans une première approximation, ça permet d'avancer. Donc voilà, de motu corporum ingerum, donc qui est l'embryon de la philosophie naturelle et des principes mathématiques, et surtout qui a été traduit, alors c'est en latin, hein, c'est un livre qui a été écrit en latin comme tous les ouvrages de l'époque, et c'est Madame du Châtelet aussi, j'ai une conférence sur Madame du Châtelet, Madame du Châtelet qui était la maîtresse de Voltaire, qui a vécu 15 ans avec lui, qui était une forte femme et qui était une tête, l'a traduite en français et l'a commentée. Parce que les principes mathématiques, c'est costaud. Hein. C'est pas accessible au commun des mortels. Et donc, le traité sur un système du monde, en fait, c'est le troisième chapitre de la troisième édition des Principiers qui ont été faits en 1727, donc l'année de sa mort, qui sont des ajouts sur les premières éditions. Ça, vous connaissez tout ça par cœur, même à l'école française, on apprend ça. Donc F égale M gamma, comme on disait à l'école quand on y allait. Maintenant, on dit somme des forces égale masse multipliée par l'accélération, avec des petits vecteurs. Voilà. Analogie, donc... entre la chute de la pomme et la chute de la Lune sur la Terre, les forces terrestres et célestes sont de la même nature et obéissent aux mêmes lois. Et ça, c'est vraiment une révolution conceptuelle capitale dans l'histoire des idées. Et ça, ça fait un coup de tonnerre dans toute la communauté scientifique. Et en particulier chez les théologiens, qui étaient des aristotéliciens frénétiques. Et c'est à cause de ça qu'on a besoin du calcul différentiel. Le principe des actions réciproques, qui est moins connu mais qui est très important, j'appuie là sur la table, donc ma main applique une force sur la table, de la même façon, la table applique la même force dans l'autre sens sur ma main. D'accord ? Je suis comme ça, j'appuie sur la terre appuie sur moi. Et j'attire la terre. Vous aussi d'ailleurs. Une petite formule, donc c'est la loi de gravitation universelle qui est valable pour quel que soit le corps. Donc la relation entre le carré de la période de rotation, ça c'est déjà la loi de, comment dire, T2 sur A3 égale constante, c'est la loi de Kepler. La troisième loi de Kepler. Ça vous dit rien, ça? Monsieur Kepler, c'est un astronome de la génération d'avant qui a fait des tas de trucs et qui était à Prague, qui était l'assistant de Tycho Brahe. Tycho Brahe, c'était un astronome danois brillantissime qui a fait des observations hyper précises sur la trajectoire des astres dans le ciel. Et Monsieur Kepler, il a fait des calculs à la main, il n'y avait pas d'ordinateur, pour dire, voilà les relations qu'il y a entre la période de rotation d'un astre sur son orbite et les dimensions de cette orbite. Donc, la période au carré est proportionnelle au cube du grand axe de l'ellipse. Ça, c'est la loi de Kepler. Par contre, quelle est la constante? La constante, c'est 4 pi 2 sur g plus m plus m. G, c'est la constante universelle de gravitation, et m, c'est la masse des corps, et petit m, c'est la masse de l'autre corps. Le gros et le petit. Vous remplacez la masse de la Terre et la masse de la Lune, et vous mettez G, et vous trouvez que c'est juste. Il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut déterminer la masse des étoiles qui sont à 50 années-lumière. Il n'y a pas de balance là-bas, c'est en appliquant cette formule. Puisqu'on a la durée, on a la période, on sait mesurer la trajectoire. Vous avez tout. Vous pouvez calculer la valeur de grand M. Vous mettez petit m égale 0, et c'est comme ça qu'on sait trouver la masse de Jupiter, de Saturne, de machin, alors qu'on n'a rien pour la peser. C'est grâce à cette formule. J'ai bien fait de venir, je vous apprends beaucoup de choses. Donc ça, je vous l'ai déjà rencontré, je vous l'ai déjà raconté. Vren dit, il faut absolument qu'on trouve cette solution là sur la loi de la gravitation. Et c'est Allais qui, à force d'énerver Newton, finit par lui faire cracher les fameux principes mathématiques. Voilà le frontispice de la première édition. Je cherche Newton. Oui. Société Regalis. Voilà. C'est je cherche en latin la Royal Society. Société Regali. Royal Society. Voilà. Donc il y a l'imprimatur de la Royal Society. Donc il y a eu trois éditions. La première en 1686, qui était un coup de canon. La deuxième édition en 1713. Et donc, ça a été fait par Bentley et Pemberton. Alors, Bentley, c'est encore du fric, ça. C'est encore des histoires de fric. Bentley, c'était le régent d'Oxford. Et lui, il a dit, ça, c'est un truc qui marche. Ça, on va faire du business avec ça. Donc, tu me refais une nouvelle édition et machin. Il y a un autre qui est intervenu l'amélioration de la forme, mais par contre c'est Bentley qui a empoché les... Voilà, Pemberton c'est un petit peu pareil. Alors voilà quelques pages au hasard de cet ouvrage, et en particulier proposition, problème. Donc c'est vraiment une structure par axiome, théorème, proposition, démonstration, Scolier, etc. Donc c'est très structuré. Voilà. Donc, trois grandes parties dans le bouquin, sur le mouvement des corps, livre premier, de motu corporum liber secundus, et de mundi systeme, le système du monde, donc liber tertius. Voilà, dedans, voilà, vous avez le contenu plus détaillé, démonstration mathématique des lois de Kepler, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une description sur les comètes, le problème des trois corps. Alors, qu'est-ce que c'est le problème des trois corps? C'est simple, si vous voulez, quand vous avez deux corps, c'est la Terre et la Lune, mais il y a aussi le Soleil. Et quand vous avez trois corps qui interagissent les uns avec les autres, avec les moyens mathématiques, maintenant il faut des très gros ordinateurs pour arriver à faire les... Si on arrive à poser des satellites sur des comètes à très loin de chez nous, c'est parce qu'on a les moyens de calcul maintenant qui permettent de faire ces calculs. Mais avec les moyens de l'époque, ce n'était pas possible. Mais il a approché la difficulté du problème des trois corps. Mouvement des corps en milieu résistant. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le boulet de canon. Vous tirez un coup de canon, la courbe, elle n'est pas selon les lois de Newton. Pourquoi? Parce que l'air résiste. Et donc ça perturbe la trajectoire, si vous voulez. Alors, pour faire une analogie, une métaphore, essayez d'imaginer un canon qui tire à l'horizontale. Vous tirez un bon coup, ça vient à 20 km. Vous avez un canon plus puissant, ça va à 300 km. Vous tirez encore de plus en plus fort, puis à un certain moment, vous tirez tellement fort que le boulet va se satelliser autour de la Terre. Et ces petits dessins sont dans les philosophies mathématiques. Donc, en plus, c'est très pédagogique. Hydrostatique, compressibilité des fluides. Je rappelle que l'inventeur de l'hydrostatique, c'est Blaise Pascal, qui a inventé la presse hydraulique, le puits de Dôme. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Blaise Pascal, un Français, enfin. Hein, il a lu du Pascal. Il a pris en compte la compressibilité des fluides, chose que Blaise Pascal n'avait pas pu capter expérimentalement. Et le De mundi systemet, le mouvement de la Lune, la théorie des marées, dont je vous ai déjà parlé, la précession des équinoxes, vous savez tous ce que c'est que ça, bon, je passe vite, satellite de Jupiter et oscillateur harmonique, alors je rappelle que les satellites de Jupiter, c'est Galilée qui les a vus, le premier, et donc il a essayé d'appliquer en déterminant les paramètres de l'orbite des satellites de Jupiter, voir si sa formule fonctionnait. Bingo, ça marche. Il y avait même des idées de s'en servir comme d'un étalonnage des horloges de marine. Un point intéressant, c'est qu'il a essayé de faire un petit peu de méthodologie dans sa troisième édition, c'est-à-dire d'essayer de toucher les règles de la démarche scientifique. Donc je cite des auteurs emblématiques sur cette thématique, donc Francis Bacon, le premier, ensuite René Descartes, le discours de la méthode, je rappelle, le discours de la méthode qu'on donne toujours séparément, qui est une grosse erreur. C'est le discours de la méthode, c'est un mode d'emploi de trois documents qui s'appellent les météores, la géométrie, et puis le troisième, j'ai oublié, c'est une notice d'emploi de traités scientifiques. Et maintenant, on a enlevé les traités scientifiques et on ne met plus que le discours de la méthode, ça ne veut rien dire. C'est des littéraires qui ont inventé ça. Bon, on va me tuer à la sortie. Alors, ça mérite de les citer. Méthode de raisonnement philosophique, entre parenthèses, scientifique. Je rappelle que philosophie, au XVIIe siècle, ça veut dire science. Hein ? Règle numéro 1, n'admettre comme cause d'un phénomène que celles qui sont vraies et suffisantes pour l'expliquer. Bon, là, on enfonce un peu les portes ouvertes. Descartes a dit un peu la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les caractéristiques de corps utilisées dans les expériences doivent être estimées constantes et universelles dans les corps équivalents. Ça, c'est nouveau, c'est-à-dire c'est la notion de loi. C'est-à-dire ça, le comportement de la table et de la chaise et du rideau et du plafond, c'est, ils obéissent aux mêmes lois. Alors que dans la scolastique, chacun avait sa personnalité et un comportement qui lui était propre. Règle 4, les causes doivent être proposées dans la méthode expérimentale par induction et n'être modifiées que par l'apparition de nouveaux phénomènes. Donc c'est le raisonnement par induction. Alors, hypothesis non fingo, comme vous connaissez tous le latin, ça veut dire je ne feins pas les hypothèses, je n'invente pas des hypothèses. C'est la méthode empirique, c'est-à-dire l'expérience prime sur la spéculation intellectuelle. C'est l'anti-cartésianisme. Descartes, qui dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je pense, donc je suis ». Il suffit que je fasse des raisonnements. Il ne met pas juste, mais il le pense très fort. Et je vais tout comprendre. Sauf qu'il fait, lui, souvent, très souvent des raisonnements faux. Alors, c'est bien de raisonner, mais quand on raisonne mal, ça ressemble à une cloche. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Ah là, voilà la belle. Émilie du Châtelet, extraordinaire femme, qui est morte malheureusement tôt à 42 ans de la fièvre puerpérale, parce qu'elle s'était fait faire un petit par son dernier amant, aux grandes dames de notre ami Voltaire, et elle est morte. Et c'est Voltaire qui l'a poussé très fortement, puisqu'il il était conscient de, sa, de sa, ses qualités scientifiques, pour faire ça. Et donc vous voyez le principe mathématique de la philosophie naturelle par la marquise du Châtelet, tome 1er, à Paris en 1759. Elle était morte déjà, c'est une édition posthume. Alors, les polémiques, je vais en résumer quelques-unes. Flamsteed, Hooke et Leibniz. Flamsteed, rien qu'à voir son portrait déjà, on a la moitié de la de l'histoire. À Flamsteed, il est... Alors, pareil, vous allez à Londres, vous dites Flamsteed, tout le monde sait qui est Flamsteed. En France, on n'a jamais entendu ce nom. C'est un monsieur qui a fait l'observatoire de Greenwich. Greenwich. On ne dit pas Greenwich, Greenwich. Hein? Donc, l'observatoire royal de Greenwich, je vais prononcer à la française. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de CNRS et c'est lui qui a tout payé de sa poche. Les instruments, les scientifiques payaient de sa poche. Francis Bacon, en 1610, se plaignait du fait que les scientifiques, pour faire de la science, il fallait qu'ils aient de l'argent. Et il fallait que l'État finance la recherche scientifique en 1610. Vous vous rendez compte ? Ces Anglais, toujours précurseurs. Hein ? Alors, c'est le rival de Halley, mais en fait, c'est deux générations, Halley est plus jeune. Alors, Halley, ben je crois que je l'ai dans la planche suivante. Voilà. Halley, Edmund Halley, donc la comète, c'est lui. Hein. Qui c'est ce Halley ? C'est un riche fils de son père qui était un savonnier, qui fabriquait du savon et qui avait une fortune. Et dans sa prime jeunesse, il a fait des expéditions d'observation astronomique, devinez où ? à Sainte-Hélène. Ben oui, c'est un anglais. Vous voyez, il y a tout un tas d'histoires curieuses. Alors, après Sainte-Hélène, donc, il a ramené, il a fait beaucoup d'observations astronomiques, donc il a une compétence en astronomie. Et c'est lui qui a posé l'hypothèse que la comète dite de Halley maintenant était une comète qui gravitait autour du Soleil et qui reviendrait dans un certain temps. Il est, comme la période est de 72 ans, quand elle est revenue, il était mort depuis longtemps. Mais, disons, a posteriori, son hypothèse était la bonne. Donc, il a financé les Principia, comme je vous l'ai dit, et il a ferraillé contre Flamsteed. Pourquoi ? Parce que Flamsteed, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait faire, comme un peu avait fait, il voulait faire mieux que ce qu'avait fait Tycho Brahe. Qu'est-ce qu'a fait Tycho Brahe, que j'ai évoqué tout à l'heure ? Un catalogue d'étoiles. Voilà une des éphémérides. Voilà, dans le ciel, il y a ceci, il y a cela, il y a les planètes, et tout, avec des tables pour pouvoir prévoir la position des astres et des planètes. Alors, il y avait peut-être 400 objets, il dit, moi, je vais en faire un de 4000. Mais avec les moyens de l'époque, ça demandait beaucoup de temps. Newton était sur ses basques pour lui dire, donne-moi tes observations de la Lune. Moi, les étoiles dans le fond, moi, je m'en fous. Je veux les tables de la Lune. Mais tu m'emmerdes avec la Lune. Moi, je m'occupe des étoiles. Et donc, des polémiques à n'en plus finir entre les deux. Alors, ça a tourné au vinaigre. Pourquoi ? Parce que quand il a été président de la Royal Society, Newton, il s'est habilement rapproché de la reine Anne en disant, moi, je voudrais la tutelle de l'observatoire de Greenwich. Et je veux devenir le chef de Flamsteed pour qu'il soit à ma botte et qu'il me donne mes tables sur la Lune. Hein ? Sinon, ça va chauffer. Voilà. Alors, ça s'engueulait sans arrêt. Alors, la correspondance Flamsteed-Newton, ça vaut des pesants de cacahuètes. Le canard enchaîné, c'est de la gnognotte à côté. Voilà. On pourrait faire un roman avec ça. Newton lui barbote ses tables de la Lune, qui étaient quand même déjà bien avancées. Il les publie tout seul. L'autre, furibard, a carotté chez l'imprimeur tout ce qui restait et il les a brumés en auto-da-fé devant l'observatoire de Greenwich. Vous voyez, il y avait de l'ambiance. Hein ? Voilà, donc traité c'est le livre 3 des Principia, je l'ai déjà dit. Travaux en optique. Bon, il faut que j'accélère hein, parce que. Ah, voilà des cahiers d'expérience. Vous voyez les dessins. Alors, il est allé pour faire des expériences, par exemple, des choses qui sont extraordinaires, c'est de se mettre un bâton dans l'œil entre le globe oculaire et le machin pour voir ce que ça fait. Alors, il dit ça fait des arcs-en-ciel. Il regardait le soleil et comme ça, les lunettes de soleil, ça n'existait pas. Un peu fou. Hein. Et je vous montre, je vais vous montrer ça. Voilà des pages de Newton. Ah, il est à l'envers. Je vous le mets à l'endroit. Non, zut. Ah ben si, c'est intéressant. Regardez. En fait, il a une écriture qui est extrêmement lisible. Hein, qui n'est pas grabouillée. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est ça. C'est écrit à l'envers. Le papier est une denrée rare. On écrit des deux côtés. Et on fait dans les marges et tout, et on écrit partout, parce qu'il n'y a pas assez de papier. D'ailleurs, le cadeau de base pour les jeunes étudiants, ce n'était pas des oranges ou des sucreries, c'était des liasses de papier, à cette époque. Voilà, alors. Il a expliqué, cette fois-là, bien, bien que Descartes s'y soit essayé, le phénomène de l'arc-en-ciel, hein, qui est une réfraction multiple dans les gouttes de pluie, et surtout la fameuse roue de Newton. Alors, à l'époque, l'offset en quadrichromie, ça n'existait pas, mais il a écrit ça. Alors, si vous prenez cette roue-là, c'est vraiment la figure qu'il a lui-même dessinée dans son ouvrage Optics. Et si vous coloriez en jaune, en orange, en rouge et tout, vous connaissez cette expérience, vous faites tourner la roue et puis ça fait blanc. Et parce qu'il l'a fait. Hein, voilà. Donc, comme ça, il a démontré avec une expérience simple que la lumière est faite d'une composition de couleurs en proportions variées. Et donc, la fameuse expérience de dire « je disperse la lumière et je la reconcentre et je reconstitue du blanc ». L'œil est un organe optique. Et voilà le fameux télescope à miroir. Alors ça, ça tient sur la table. Ça se diamètre là, et c'est long comme ça. Alors pourquoi il a fait le télescope à miroir? Je rappelle que c'est fait comme ça. Hein, un miroir parabolique ici, un petit truc qui renvoie ici. Pourquoi? Parce que dans les lunettes astronomiques à la Galilée, vous avez ce qu'on appelle l'aberration chromatique. C'est-à-dire que les différentes couleurs ne sont pas diffractées de la même façon. Et vous avez un espèce de petit arc-en-ciel autour des objets, si vous voulez. Après, on a su compenser cet effet avec des verres d'indices différents, hein, dans des lunettes améliorées. Mais à l'époque, disons, dès qu'on augmentait les grossissements, tout devenait irisé et on n'y voyait rien. Donc il dit, si je n'utilise pas un processus de réfraction, mais un processus seulement de réflexion, j'évacue cette difficulté de l'aberration chromatique. Et effectivement, avec ça, il n'y a pas d'arc-en-ciel autour des objets. Voilà. Et ça, tous les grands télescopes d'aujourd'hui, ceux qui sont sur Hawaï et machin, sont basés sur ce principe. Voilà. C'est le principe du télescope de Newton. Il y a un Français qui a trouvé une astuce. On perce un trou là et au lieu d'avoir un petit miroir, ben on regarde là. Mais enfin, c'est M. Cassegrain. Voilà. Alors, théorie de la lumière. Par contre, dans sa théorie de la lumière, il y avait une bêtise. Parce que comme il avait fait la théorie de la gravitation universelle, pour lui, tout s'expliquait, tous les phénomènes dans la nature s'expliquaient par des petites billes, des petits corpuscules qui s'agitaient dans tous les sens. Et à l'époque, l'autre théorie concurrente, on va dire, c'était la théorie ondulatoire, c'est-à-dire la lumière est une ondulation, est une onde. Et c'était la thèse de Huygens. Effectivement, les phénomènes qu'on observait à l'époque était beaucoup plus facile à expliquer par la théorie ondulatoire, c'est la diffraction, des choses comme ça. Il a eu un retour de notoriété parce qu'il y a un gars qui s'appelle Einstein qui a dit ben, il y a aussi des petites particules, ça s'appelle des photons. Il n'a pas eu le prix Nobel pour ça, mais enfin, c'est pour autre chose. Et aujourd'hui, ben, on a trouvé la solution. Les physiciens sont quand même des bons. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Ben, c'est des ondes et des petits grains en même temps. Comme ça, tout le monde est content. Donc, c'est la théorie de la mécanique ondulatoire par M. De Broglie, qui a eu, lui, le prix Nobel pour ça. Donc, le fameux Optics. Le traité 1704. Voilà. Et c'est dans ce traité qu'il y a ça n'a rien à voir avec l'optique, c'est Introductio a Quadratura Curvarum. C'est la quadrature des courbes. Qu'est-ce que c'est que ce machin? La quadrature des courbes, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est le fameux calcul différentiel. J'y reviendrai après. Je vous montre le fameux Christian Huygens, qui avait un visage d'ange, le premier secrétaire de l'Académie des sciences, et qui a été l'inventeur de l'échappement. Et il a eu de la correspondance avec Newton. ils ne se sont jamais rencontrés. Si, une fois. Si, une fois, en 1790, quand au premier mandat, il a rencontré Huygens, une fois. Voilà notre ami Hooke, le furieux, hein, qui était contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, et qui était plutôt un ingénieur, je dirais, que de sensibilité, alors que vraiment Newton est plutôt un scientifique, mathématicien, donc il y a aussi cette difficulté. Alors heureusement, il est resté, moi qui suis ingénieur mécanicien, son nom est resté pour une loi qui s'appelle la loi de l'élasticité. C'est la loi de Hooke, maintenant, depuis le XXe siècle. Alors c'est quoi la loi de Hooke ? C'est une loi toute bête qui dit que la déformation des matériaux, elle est proportionnelle à l'effort qu'on fait dessus. Et le rapport entre les deux, c'est le module d'Young. Alors c'est pas le module de Hooke, j'y peux rien. C'est un gars qui est venu après, c'est encore un anglais. Hein, voilà. Et donc c'est lui qui a inventé le terme de cellule, puisque c'est vraiment lui qui a fait le premier livre où il y a des observations très variées du vivant. Hein. Micrographia, 1665. Donc avec Hooke, je vous ai donné les brouilles. Il a essayé de brouiller avec tout le monde, de toute façon, Hooke. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, alors, la dernière phrase. Disparition du portrait des papiers et instruments de Hooke après la mort et l'élection comme président de l'ARS. Au moment où j'avais écrit ça, c'était la thèse officielle. Et c'est ce qu'il y a dans la biographie que j'ai lue. Et il faut suivre l'actualité scientifique. Donc, il y a 2 ou 3 ans, on a retrouvé, dans quelque part, les papiers de Hooke. Donc, on absout Newton d'avoir détruit les travaux de Hooke. Voilà notre ami Fermat, un Français, un Toulousain, de Beaumont-de-Lomagne, hein, natif de Beaumont-de-Lomagne, magistrat à la cour de Toulouse, donc qui a fait une très belle carrière, et qui était mathématicien, amateur, mais amateur, oh, puisqu'il a fait la fameuse conjecture de Fermat, x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'est valable que pour 1 et 2, au-delà, pour des valeurs entières. 2, 3, 4, 5, ça, on ne peut pas avoir des entiers qui répondent à la conjecture de Fermat. Et il avait mis ça dans la marge d'un cahier. Il a dit, la démonstration en est si facile, mais je n'ai pas la place de la mettre dans la marge. La démonstration a été faite par un mathématicien anglais en 1990 ou 96, j'ai oublié son nom, elle fait 350 pages. Et elle utilise les dernières technologies des maths modernes du XXe siècle. Donc je pense qu'il n'avait pas vraiment la démonstration. Mais ça fait fumer tous les mathématiciens depuis 3 siècles et demi. Alors, il a fait le théorème du binôme. Alors, je vous ramène à... Oh, c'est la classe de 4e, 3e. Hein, bon, vous connaissez ça, donc. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le triangle de Pascal. Hein, le 1, 1, 1, 2, 1. Donc, pour trouver les choses suivantes, le 3, c'est 1 plus 2. Le 4, c'est 1 plus 3. Le 6, c'est 3 plus 3, etc., etc. Hein, vous additionnez sans arrêt les coefficients. Et donc, c'est les coefficients du développement en série des expressions x plus y puissance n. X plus y puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 6, voilà. Et on trouve tout un tas de propriétés à ce magique, à cet triangle de Pascal magique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le théorème du binôme qui est associé au nom de Newton. Il a inventé les exposants négatifs et les exposants fractionnaires. Et Descartes et même des mathématiciens plus récents que Descartes en France ont eu du mal à avaler. Même Lazare Carnot, cité un plus local, Lazare Carnot. Vous connaissez Lazare Carnot. Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire, c'était un ingénieur. Et il savait faire des maths. Il a fait une œuvre mathématique aussi. Vous ne savez pas ça. Lazare Carnot, non, je dis ça comme je fais un peu de la pub parce qu'on va sortir un bouquin sur Lazare Carnot en 2015. Donc c'est pour ça que je connais un peu le sujet. Et donc Lazare Carnot, il avait du mal avec les exposants négatifs et les nombres négatifs. Donc philosophiquement, il y avait des réticences vis-à-vis de ces problèmes-là. Et donc, les socles de la théorie des infiniment petits, il les avait déjà sortis en 1665 et en 1671, mais c'était dans ses papiers. Ça n'a pas été publié. Il ne publiait jamais. Sauf quand vraiment on lui mettait l'épée dans les reins. Alors voilà ce que c'est que les infiniment petits. C'est trouver l'équation de ce qu'on appelle la dérivée, c'est-à-dire de la tangente à une courbe. Alors ça, on avait des solutions, si vous voulez, pour des courbes classiques, les paraboles, les hyperboles, les courbes très classiques. Et maintenant, avec ces méthodes, quelle que soit la fonction qu'on utilise, il a trouvé les formules pour déterminer ce qu'on appelle la dérivée, c'est-à-dire l'équation de la tangente. Et une conséquence de ça, la méthode de Newton pour trouver les racines approchées d'une équation, je passe vite, hein, la formule elle est là, disons on cherche ce truc-là et on se débrouille pour approcher cette valeur-là grâce à cette formule-là. Et aujourd'hui, au 21e siècle, on dit toujours que c'est la formule de Newton, ou Newton-Gauss, si vous voulez. Alors, voilà Gottfried Leibniz. Alors lui, c'était l'anti-Newton, au sens du caractère extraverti. Il a vécu 70 ans, lui, mais il a sillonné l'Europe entière. Et il savait tout faire. Tout. Et encore plus. Et c'était une tête. Et disons, au niveau, je pense, au niveau de capacité intellectuelle, on peut le mettre sur le même plan que Newton. C'est le Newton continental, on va dire. Donc vous voyez ce qu'il a fait, même il n'y a plus de place dans la planche, je n'ai pas pu en rajouter. J'ai une conférence sur Leibniz aussi. Voilà, alors là c'est un résumé de la conférence, j'accélère un peu là. Alors, la vraie polémique c'est la suivante. C'est que le premier qui ait vraiment publié quelque chose sur les calculs infinitésimales, c'est Leibniz, en 1686, si je me souviens plus, je ne sais pas sur celle-là. 1684. Leibniz, il a essayé de susciter une académie, un peu du même type que l'Académie des sciences française et que la Royal Society, mais à l'époque, l'Allemagne, ça n'existait pas. C'était morcelé dans un nombre incroyable de principautés diverses. Et à Berlin, il a réussi, après beaucoup de péripéties, à faire la première académie des sciences à Berlin en 1700 seulement. Donc vous voyez, 40 ans après leurs équivalents anglaises et françaises. Et avant ça, il y avait déjà un noyau autour de lui, c'est-à-dire le noyau, il était lui, et il était le noyau et le noyau. Voilà, c'était lui, quoi. Et il a inventé les Acta Eruditorium, qui sont l'équivalent des Philosophical Transactions et du Journal des Savants de l'Académie des Sciences. Et là, il a fait un article en disant, ben voilà, j'ai trouvé une méthode de calcul infinitésimal. Évidemment, il s'est bien gardé de mentionner Newton. Ça n'a rien fait de spécial, mais quand Newton a été à la Royal Society, il a eu des porte-flingues, on va dire, c'est-à-dire son entourage, qui s'est mis à polémiquer avec le gars Leibniz, en disant que c'était des injures, quoi. Alors là, il s'est vexé. Donc il y a deux camps, voilà, je vous donne les protagonistes. Wallis, encore lui. Facio Dullier, j'en ai pas parlé, on n'a pas le temps, c'est un Suisse comme le nom ne l'indique pas, et Cale, c'est un Anglais, et Jean et Jacques Bernoulli, est-ce que vous les connaissez ceux-là? Ah ben, les Suisses, Bâle, les grands mathématiciens de la Suisse, donc les Bernoulli, c'est toute l'hydrodynamique vient des Bernoulli. Et donc, comme ils étaient teutons, bon, c'est la solidarité continentale et germanique qui a joué. Et là, les anglo-saxons. C'est pas complètement idiot ce que je dis. On voit dès le milieu du XVIIe siècle commencer à apparaître du nationalisme scientifique. En disant, la science anglaise, elle est meilleure que la science allemande, ou la science allemande, elle est meilleure que la science française. Donc, tout ce qui s'est passé après, je ne dis pas que ça vient de là, mais si vous voulez, ça se met tout doucement en place, tout ça. Alors, je ne vais pas vous épuiser à vous détailler tous les épisodes, et ils sont marqués là. Et à la fin, ça s'est terminé comment? Alors, il est mort en 1716, je crois. Oui, je l'ai, si ma mémoire des dates est bonne. Il fait une commission d'enquête. Et les historiens... Un siècle après, on finit par découvrir, parce qu'ils ont reconnu son écriture, que le rapport de la commission, c'est lui qui l'avait écrit. En fait, il semblerait qu'il l'ait découvert indépendamment l'un de l'autre. Il y a une suspicion contre Leibniz qu'il a pu avoir accès aux épreuves des philosophicales des principes mathématiques chez l'imprimeur, parce qu'il était à Londres au moment où ça s'imprimait. Donc il a pu avoir accès à ça, et donc il a pu voir qu'il y avait des choses dedans. Et inversement, Leibniz a eu accès à des travaux de Pascal, parce qu'on pense que la petite étincelle qui est à l'origine du calcul infinitésimal, c'est quand même Pascal qui l'a eu, mais il est mort trop tôt. Et il y a beaucoup de ses œuvres qui ont été perdues. Et c'est quand Leibniz a été présent à Paris de 1672 à 1676, et il a, on le voit dans sa correspondance, il a eu accès à des œuvres de Pascal que l'on connaît parce que c'est lui qui les a recopiées. Et on les trouve dans les papiers de Leibniz, mais on ne les trouve plus dans les papiers de Pascal. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça a mis de l'ambiance. Donc la fameuse lettre qui est l'objet de toutes les vindictes, c'est le Commercium Epistolicum, qui est un panégyrique, un historique de tous les échanges de courriers où Cale, casse du teuton. Voilà. Donc, M. Leibniz, vexé comme un pou, demande à Chamberlain, qui était le régent de la Royal Society, des excuses qu'il ne donne pas. Hans Sloane, temporise, et puis le combat cesse de faute de combattants. Il faut parler de l'alchimie. L'alchimie, ça a été le grand domaine d'activité de Newton, parce que c'était secret. Mais pendant 20 ans, une bonne part de son activité, c'était de l'alchimie. Et il a fait en particulier un index chemicus où il y a 5000 références, c'est-à-dire une espèce de dictionnaire où il a catalogué tout ce qui existait comme corps chimique. Ça, c'est du Newton tout craché, la bête. Hein, on a c'est accessible sur Internet. Alors, on a trouvé, comme c'était. Alors, les historiographes anglais ont jeté un voile pudique sur cette activité non scientifique, c'est de l'alchimie, alors que ça constitue une bonne part de son activité. Donc c'est celui qui l'a ressorti, c'est Keynes, vous savez, John Maynard Keynes, le keynésianisme, l'économiste anglais qui est à la base du système de Bretton Woods, de l'entre-deux-guerres, philosophe interventionniste, thèse interventionniste, l'État doit dépenser du fric pour faire marcher la machine économique. Mais lui, il était collectionneur, et il a su que dans des ventes publiques, il y avait des manuscrits de Newton qui traînaient. Il est allé prendre toute la liste des gens qui avaient acheté pour racheter les documents qui avaient été dispersés dans une vente publique. Alors, comment il faisait? Eh bien, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'alchimie? Beaucoup de matériel et de substances, mais surtout, il faut des fours. Donc, il y a des fourneaux, et puis on... vous savez, c'est comme les dessins animés de Walt Disney, hein, vous voyez le sorcier qui est dans ses cornues, et voilà. Et il y a même tellement de cornues que quelquefois, une fois, il a foutu le feu à sa chambre, et tout a été dévasté. Hein. Donc il est quand même resté des papiers. Et écrit théologique, c'est la plus grande partie, au moins quantitativement, de son œuvre. Et ça, personne ne le sait. Vous avez bien fait de venir. Il y a à peu près les trois quarts de son œuvre, en nombre de mots, ce sont des écrits théologiques. Je rappelle que Trinity College, ça veut dire quoi? C'est l'école de la Trinité. Hein, et on comprend mieux, quand on analyse ces documents, pourquoi il a tout fait pour ne pas rentrer dans les ordres, puisqu'il était ce qu'on appelle socinien, ou unitarien. Ah, je vous explique ce que c'est. L'unitarien, c'est la non-croyance dans la Trinité. Seul Dieu est la divinité, le Saint-Esprit et le Jésus-Christ ne sont pas divins, par essence. Donc, le dogme de l'Église catholique et de l'Église anglicane, parce que je rappelle que l'Église anglicane, on dit qu'elle est protestante, c'est une Église catholique qui s'est séparée du pape. Ce n'est pas une Église protestante au sens de luthérien du terme. Hein. Et donc, il a fait ce que beaucoup d'autres ont fait, comme Spinoza, par exemple, à la même époque. Il est quand même relativement contemporain de Spinoza. Spinoza, c'est les années 70, hein, 1670. De dire, je fais une analyse critique des Écritures saintes et je vois que c'est un tissu de contradictions. Il y a des choses qui ne vont pas. Il a refait la chronologie des anciens royaumes. Et il est allé jusqu'à regarder dans les Écritures quand passaient les comètes. Et en disant, là c'est faux, ça ne peut pas être à cette époque-là. Voilà. Vous voyez jusqu'où ça allait. Donc essayez, analysez par un esprit scientifique les Écritures saintes. Et ça représentait trois quarts de sa production écrite. Mais évidemment qui est restée secrète. Il y a un de ses élèves qui avait les mêmes idées que lui, et lui, ce couillon, il a dit « Ah ben moi, je ne crois plus à la Trinité ». Bon, il n'a pas fait long feu, on l'a sorti avec un bon coup de pied aux fesses. Voilà. Voilà. Un écrit de notable corruption de l'écriture, hein, voilà, publié en 1754. Exégèse comparée des différentes versions de la Bible, hébreu, grec, latin. Il a appris l'hébreu. Spinoza, il le connaissait, lui, puisqu'il était juif. Mais il y a très peu de gens qui ont fait ces études comparées à l'époque. En clair, on pourrait faire une conférence complète là-dessus, parce que il y a du matériau. Vous voyez, alors on dit, voilà, on a fait la gravitation universelle, je fais de l'alchimie, je fais de l'optique, machin, et pendant ce temps-là, une courte chronique de la première mémoire des rois en Europe sur la conquête de la Perse par Alexandre le Grand. Et il y en a des tartines entières. Il y a même des écrits philosophiques, qu'on peut considérer comme philosophiques. De Gravitation, manuscrit posthume découvert en 1962, réfutation des thèses de Descartes, mais je l'ai un petit peu évoqué en disant « je suis partisan de la thèse expérimentale et du raisonnement par induction, et non pas du raisonnement in abstracto, et Descartes a osé écrire que si l'expérience n'était pas conforme au raisonnement, c'est l'expérience qui était fausse. Il l'a écrit, le grand Descartes. Il faut quand même le faire. Et hypothèses non fingo. Je ne feins pas les hypothèses. écrits administratifs. Il y a même des écrits administratifs, puisque je rappelle qu'il a été gardien de la monnaie, warden of the mint, et ensuite master of the mint. Hein ? Dans le travail de Warden of the Mint, ça, il n'avait pas prévu le coup. Il y a la lutte contre les contrefacteurs, les gens qui faisaient de la fausse monnaie. À l'époque, ça consistait à faire quoi ? La fausse monnaie, c'était le rognage. Vous savez, la monnaie était en argent, hein, et on grattait un petit peu le truc pour baisser la teneur en métal précieux de la pièce. Et après, on fondait pour faire d'autres pièces. Et donc, le gardien de la monnaie, qu'est-ce qu'il avait à faire ? Eh bien, tous les ans, il faisait un sondage dans les pièces qui étaient en circulation. Et puis, il fallait qu'il prouve, que, avec des balances, que c'est le grade des monnaies était bien bon. Si ce n'était pas le cas, eh bien, on poursuivait avec la police, manu militari, et en particulier... Il y en a un qui s'appelait William Challoner. Il s'est acharné contre lui et il a plaidé comme un procureur dans les procès contre William Challoner et il l'a fait pendre. Il l'a fait pendre. Il est à Newton, à son actif, 200 condamnations. Voilà. Mais c'était les mœurs de l'époque. Hein. Il faut remettre ça. En perspective. Hein. Donc, on me donne le boulot, je m'occupe de la Tour de Londres, je m'occupe de travailler, par exemple, en 3-8 dans les ateliers pour frapper la monnaie, parce qu'à l'époque, je vous ai évoqué l'acte d'union. Et dans l'acte d'union, il y avait une sordide affaire qui s'appelait le recoinage, c'est-à-dire on changeait la valeur en argent des pièces. Il était contre, lui. Mais par contre, le roi avait dit, bon, on fait ça, c'était de la dévaluation, ça s'appelle de la dévaluation en termes modernes. Eh bien, pour faire de la monnaie en circulation en quantité suffisante, quand on change, c'est comme l'euro, hein, si vous voulez, il faut cracher des espèces, eh bien, il fallait travailler en 3-8 à la Tour de Londres. Eh bien, il s'en est occupé, aux grandes dames, de tout l'environnement qui était là, qui voulait se la couler douce et toucher les émoluments des choses. Donc Newton, c'était un sérieux. Il a fait des choses sur les théories monétaires. Oui, le recoinage, on en parlait là. Alors, la Royal Society. Ah, destruction des archives de Hooke, je vous ai dit, c'est faux. Hein. Alors, en liaison avec Sloane, c'est un médecin. Donc Sloane a apporté la partie médecine et zoologie à la Royal Society. Jusqu'à présent, c'était essentiellement de la chimie, de la physique, les activités qui étaient couvertes. Et donc là, l'idée, c'est de couvrir tout l'éventail des connaissances scientifiques de l'époque. Et là, on fait des sections. Des classes, comme ça s'est fait après à l'Académie des sciences ou à l'Institut. L'Institut, c'est le nom actuel de l'Académie des sciences. Hein. Et donc, il y a les classes de mécanique, il y a les classes de biologie, il y a les classes de botanique, etc., etc. Et donc, on assiste aux séances, il y a des comptes rendus, organisation hiérarchique, enfin, un administrateur extraordinaire. Et il n'achète pas le morceau, je vous dis, il a raté que 3 séances parce qu'il était trop malade pour y assister. Même quand il était incontinent ses 5 dernières années de la vie, il était dans sa chaise à porteur avec un machin, on le posait sur l'estrade et puis il était là en permanence. Alors tout ça s'est rassemblé dans ce qu'on appelle le Newton Project, c'est-à-dire il y a des gens qui rassemblent l'ensemble des documents manuscrits qui sont trouvés ici ou là. Aujourd'hui, donc c'est tout accessible en ligne. Il y a 4,2 millions de mots en ligne. Hein. Et encore à venir. Il n'est pas le plus gros, puisque Leibniz, lui, a une œuvre de 15 000 lettres dans toute sa vie. Alors, en nombre de mots, je ne sais pas combien ça fait. Et on estime que le recollement de toute l'œuvre de Leibniz, ça va porter jusqu'à 2060, à la bibliothèque d'Hanovre, de l'université d'Hanovre. Alors, qu'est-ce qui reste de Newton, à part son nom ? Eh bien, il y a une unité dans le système international qui s'appelle le Newton, l'unité de force, c'est le Newton. Voilà. Newton, c'est à peu près un dixième de kilo. Et il y a l'idée d'encyclopédie. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé l'idée d'encyclopédie, mais enfin, son œuvre, l'index chemicus et les choses comme ça, on est bien dans une logique encyclopédique. La méthode expérimentale, quantifiée, ça a été un des premiers à peser tout ce qu'il faisait en alchimie. Celui qui est le grand fondateur de la chimie quantitative, c'est Lavoisier, hein, un siècle après, mais c'est lui le premier qui a commencé à peser. Hein. Relativité newtonienne, je l'ai dit, le temps est absolu, et beaucoup de lois mathématiques qui sont encore utilisées aujourd'hui, Newton-Cotes, voilà, j'ai retrouvé le nom, Cotes, c'est le mathématicien qui a participé à la rénovation de la deuxième édition des Principia. Et on aurait dû mettre, parce que là, Newton n'a pas fait grand-chose, il était chef, puis il était déjà plus âgé, donc c'est un jeune mathématicien, Cotes, qui a fait ça. Euhler, c'est le grand mathématicien allemand, Schrödinger, c'est un Autrichien, Gauss, c'est un Allemand. Voilà, donc là, les principales sources biographiques. Alors, je vous recommande vivement cet ouvrage-là, qui est accessible, qu'on peut acheter sur Internet, Les Pommes de Newton, qui est Jean-Marie Vigoureux, c'est un professeur de l'Université de Besançon qui est en retraite maintenant et qui vient tous les ans nous faire des conférences. Il est génial. C'est le mieux que j'ai jamais lu sur les théories, parce que c'est très bien fait au niveau pédagogique. C'est-à-dire, même si vous n'avez aucune connaissance en physique, vous allez tout comprendre, la démarche de Newton. Donc je recommande vivement cet ouvrage-là. Hein, Coiré, qui est un grand historien des sciences. Voilà. Voilà. Et j'arrive à la conclusion. Là, j'ai quand même largement dépassé. C'est quand même un gars tout à fait particulier. Il est essentiellement motivé par la recherche scientifique. Donc, on dit le professeur Cosinus, il y a un petit peu de ça chez Newton. C'est-à-dire, s'il n'avait pas eu les Flamsteed, les Hooke, les Halley, Wren, enfin son entourage qui lui cassait les pieds en disant « publie, 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 publie ». Ah, pourquoi il ne voulait pas publier ? C'est un peu la même raison que Spinoza ou que même que Descartes. Il dit « oui, mais si je commence à publier, tout le monde va me tomber dessus en combattant les thèses que je propose. Et moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à polémiquer avec tel ou tel. » Donc c'est ça, il n'y avait pas de problème religieux là. Beaucoup de gens hésitaient à publier parce qu'il y avait une connotation philosophique ou religieuse qui était derrière, et c'est le cas de Spinoza par exemple. Mais là, il n'y avait pas de. Enfin, au premier degré, il n'y avait pas de raison d'empêcher. Et il a dit, moi, je ne veux pas m'embêter avec ça. Donc, ça. Heureusement que Halley a poussé et que surtout il a payé pour que l'édition se fasse et que le processus se déclenche. Travailleur, bon, je vous l'ai dit 10 fois, et aujourd'hui, on peut dire, à part les petits corpuscules dans la lumière, tout ce qu'il a raconté, c'est toujours juste. Et donc, ça, on ne peut pas dire beaucoup de scientifiques de cette époque-là. Descartes n'a dit que des conneries en physique, du début jusqu'à la fin, alors qu'il se prenait pour un petit dieu. J'aime pas Descartes, vous avez compris. Parce qu'il était d'une suffisance absolument insufférable. Mais j'ai mon philosophe qui nous fait des conférences de philosophie, c'est un cartésien militant. Alors, ça frotte. Hein. Mais c'est la disputatio, ça s'appelle comme ça, la disputatio philosophique. Sûr de ses analyses, étant en permanence d'éviter les contradictions. Et puis, dernière conclusion, c'est un génie. Il n'y a pas de doute. Hein. Il a bénéficié de la pression de son entourage. Il a bénéficié de circonstances favorables avec la Glorieuse Révolution, parce qu'il est, il est juste sorti du bois au bon moment. Hein, voilà. Et ses apports sont tout à fait considérables. Et enfin, un scientifique au XVIIe siècle, il faut qu'il ait des mécènes. C'était déjà le cas au Moyen-Âge, c'était toujours le cas à cette époque-là. Il a fallu attendre le XIXe siècle, un peu dans tous les pays, pour qu'il y ait déjà des financements. Alors, ça a commencé par des prix scientifiques, si vous voulez. C'est-à-dire, on donnait, par exemple, souvenez-vous de Pasteur, à la fin du XIXe siècle, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a eu des généreux mécènes, mais qui n'étaient ni l'État, ni un noble, ça n'existait plus, mais qui disaient, vu la qualité des travaux, je donne beaucoup d'argent, Madame Boussicot, etc., ont donné beaucoup d'argent pour pouvoir fonder l'Institut Pasteur, qui est quand même un cas très particulier en France. Et puis, Sabot est un génie, ben, ça n'est qu'un homme, et il ne devait pas être rigolo tous les jours. Son deuxième copain, enfin assistant, il a dit « Je l'ai vu rire qu'une seule fois en 20 ans. » Donc ça ne devait pas être un marrant. Hein ? C'était ce qu'on appelle un polar. Voilà. Mais un bon. Voilà, je vous remercie.